Chers auditeurs et auditrices de la CRTV Poste Nationale, bonsoir et merci de votre fidélité à nos programmes. Vous êtes à l'écoute de Questions de foi qui est diffusée chaque dimanche entre 20h30 et 21h15. Et ce soir, nous allons nous pencher sur la thématique de la protection des enfants pendant les vacances. Les mois de juin, juillet et août sont consacrés en général aux vacances au Cameroun. Les enfants s'adonnent à toutes sortes de jeux, des divertissements en longueur de journée. Pour les parents qui ont des aînés pour surveiller les enfants, l'affaire est quasiment résolue. Mais pour les parents qui n'ont pas d'aînés ou une aide subsidiaire en leur absence, l'équation est plus compliquée à résoudre. Ceux-ci sont contraints d'envoyer les enfants vers d'autres membres de la famille, de les faire inscrire dans des camps de formation et autres. L'objectif étant de permettre aux enfants de bonifier leurs vacances à travers l'acquisition d'autres compétences. Toutefois, ces activités ludiques ne sont pas sans risque pour le bien-être des enfants. Des cas de violence sexuelle, de maltraitance, de rites et d'autres sont très souvent pratiqués sur les enfants pendant les vacances. Alors, comment protéger nos bouts de chou contre de telles pratiques? Comment leur garantir des vacances saines et bénéfique? Nous en parlons ce soir avec quelques invités qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Nous avons notamment l'évangéliste Emmanuel Juste Lingom. Il est également superviseur général de l'Institut Turanus. Bonsoir, évangéliste Emmanuel.
Bonsoir, Estelle. Bonsoir, chers auditeurs.
À ses côtés, nous avons l'apôtre Josué Essouma Atangana. Il est superintendant des assemblées de la communauté chrétienne internationale Jésus-Christ, source de vie. Bonsoir, apôtre.
Bonsoir, Estelle. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent ce soir. Que Dieu les bénisse. Et bonsoir à tous ceux qui me connaissent.
Merci. Alors,
merci à mon frère.
Copanéliste. Alors, nous allons parler de protection des enfants. Quand on parle de protection ou de protéger, à quoi est-ce que cela renvoie, Monsieur Lingom?
Oui, je commencerai par dire que protéger, c'est mettre en sécurité. Mais ce n'est pas seulement mettre en sécurité, mais c'est surtout garantir cette sécurité-là. Parce qu'il y a ici l'action de donner une direction, mais aussi l'action de garantir un résultat. Bon, la sécurité de l'enfant doit être la priorité pendant les vacances. Lorsque les vacances arrivent, il faut que l'enfant soit en sécurité. L'enfant est dans une certaine sécurité pendant l'année scolaire, c'est-à-dire qu'il vit sous un toit précis, particulier, et de ce toit, il va à l'école le matin selon les moyens qu'on a mis en place, la voiture personnelle pour l'accompagner, le taxi qu'il peut prendre, ou bien on prend le taxi avec lui, la moto, de nos jours il y a déjà la moto, ou bien on l'accompagne à pied selon que l'école est loin ou pas. Donc, et puis maintenant il rentre à la maison, comment il part de la maison pour l'école, comment il va de l'école pour la maison, il y a cette réalité selon laquelle les parents se trouvent souvent soulagés par le fait qu'on le laisse à l'école et on a toute sa journée, on pense à lui bien après et puis on revient le chercher et puis maintenant on peut s'occuper de lui de très près et l'encadrer. Maintenant quand on est en vacances, on n'a plus l'école qui fonctionne et il faut veiller sur l'enfant. Et ici nous allons voir deux approches. Il y a une approche qui consiste à subir les circonstances et une approche qui consiste à diriger les circonstances. Mais le défi, au-dessus de tout, nous allons bien développer ça tout à l'heure, mais est-ce que le parent subit les circonstances pendant les vacances, surtout les grandes vacances? Si oui, s'il subit, il subit de qui et comment ça se manifeste? Ou alors, est-ce qu'il dirige les circonstances? Si oui, s'il dirige les circonstances, comment il les dirige et quels sont les résultats? Donc, il y a ces deux approches ici. Et toujours est-il que nous allons mettre l'accent sur le fait qu'il faut garantir la sécurité de l'enfant, mais il faut aussi garantir la continuité de la croissance, de la bonne croissance multidimensionnelle de l'enfant pendant les vacances.
Et on parle de vacances, apôtre Essouma Atangana, qu'est-ce que les vacances? Peut-être il faudrait également qu'on sache à quoi renvoient les vacances.
Bon, les vacances, c'est si on peut donner les vacances comme un temps de repos qu'on donne aux enfants. Il faut des étapes de repos parce que c'est le cerveau. On a chauffé ta tête toute l'année pendant 9 mois en t'inculquant des données, des choses parfois qui ne sont pas familières à ton quotidien. On va te parler des formules mathématiques, du X à Y, t'as fait si tu attends. Oui, Y, X, ça sort d'où, tout ça. On met tout ça dans ta tête et puis tu vends par la peau de X et Y au quotidien, au cours de ta vie. Donc, tu vois, l'enfant, à un moment, avec tout ça, quand on a embaumé sa tête avec tout ça, il doit avoir un moment de repos. Qu'il ne soit pas atteint de surménage, qu'il ne soit pas surmené. C'est pour sa sécurité, en fait.
Alors, Évangéliste Lingon, pourquoi faut-il s'attarder sur la protection des enfants pendant les vacances?
Oui, je pense que il faut mentionner, Estelle, que pendant l'année scolaire, le défi de fond, c'est de former l'enfant et de bien le former en continu. Et l'enfant a besoin d'être formé en continu. Il se trouve donc que pendant l'année scolaire, comme il a un programme à l'école, un emploi du temps, il devient facile à l'enfant d'essayer de suivre cet emploi du temps. Il arrive à l'école à telle heure, il va se battre chaque matin pour arriver à l'heure, et puis aujourd'hui, il a telle discipline, il passe à telle discipline, et telle autre, et telle autre. C'est facile de développer cette discipline, ce qui est la formation de l'individu. Et le parent accompagne pendant l'année scolaire. Mais lorsque viennent les vacances, on se retrouve dans le non-organisé, pour la plupart des cas. Et ce qui fait donc que pour certains, vacances peut signifier relâchement ou même désordre et indiscipline, alors qu'il faut continuer la discipline. Parce qu'il est question de garantir la bonne formation de l'enfant en continu jusqu'à son âge adulte. Je crois que c'est ça qui doit être la psychose qui plane. Il faut comprendre que la discipline doit continuer. C'est ça qui fait que dans certains ménages des chrétiens, souvent, l'heure de la méditation pendant l'école peut être à 5h30 parce qu'on doit aller à l'école. Et puis maintenant qu'on est en vacances, l'heure de la méditation arrive à 7h30. C'est pas bon.
Ah bon?
Non. La place qu'on donne à Dieu ne doit pas être subjective, ne doit pas être fonction de notre aisance, ne doit pas être fonction de notre confort charnel, je vais dire.
Mais la place qu'on donne à Dieu. Mais la place du repos alors?
Justement, le repos doit trouver une bonne place dans une bonne organisation des choses. Par exemple, nous, on a vécu cela avec beaucoup de fluctuations jusqu'à trouver une stabilité. C'est-à-dire que déjà, je suis un lève tôt, très tôt. Ma femme est une lève tard parce qu'elle se couche aussi tard et tout. Mais maintenant, l'heure de la méditation a commencé à être à 4h30, à 5h30, et puis est arrivée à 6h30, ainsi de suite, selon que les enfants vont à l'école ou pas. Mais on a fini par fixer l'heure de la méditation à un niveau où ce rendez-vous avec Dieu ne bouge pas, quelle que soit la période. On est en vacances ou on est en période de classe. C'est pourquoi on disait tout à l'heure que c'est le défi d'être discipliné, mais de continuer à être discipliné pendant les vacances. Ce qui fait que les vacances sont un moment pour plus se détendre, mais aussi développer d'autres aspects. Parce que l'école est un moment pendant lequel on met l'accent sur l'instruction et la dimension mentale de la raison. Les vacances devraient être, quand on parle d'une continuité dans la discipline, on s'organise. Et c'est là maintenant le défi des parents de bien organiser les choses, de sorte que l'enfant puisse continuer d'être discipliné, bien discipliné. C'est vrai qu'on peut donc y mettre un bon dosage de repos, de détente, de jeu et même de divertissement, mais tout cela dans une bonne organisation et dans une bonne programmation. Et c'est ça le défi des vacances.
Apôtre Essouma Tangana, est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux avant qu'on ne revienne sur les activités qu'on peut mener pendant les vacances avec les enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux pendant cette période parce qu'on parle de protection?
Oui, il est impératif et même très important de protéger les enfants pendant les vacances. Pourquoi? Parce que il y a des enfants, quand ils vont en vacances, pendant l'année scolaire qui est passée, ils étaient brillants à l'école. Mais en ce moment, l'année qui suit, ils deviennent plus bêtes encore. en réalité, des enfants, pendant les vacances, se protéger le mental, la faculté intellectuelle de l'enfant. Parce que d'autres deviennent bêtes. C'est-à-dire, pendant qu'ils sont en vacances, ils se livrent au désordre, comme l'évangile disait. Là, il faut une discipline à tout prix, parce que si on passe la discipline, on se voit des ordres. Mais d'autres, parfois, ne veulent même pas rentrer à l'école, parce que pendant les vacances, ils ont affronté beaucoup de choses. Et ils ont été atteints spirituellement. Donc, parfois, on voit l'enfant est brillant, pendant Dieu, il est sorti premier. Pendant les vacances, monsieur le sorcier qui est à côté dit, ok, je vais voir comment tu vas encore sortir premier. Il frappe l'enfant est touché. Et quand l'enfant rentre, il arrive à l'école, c'est même le A. Je connais un enfant, une jeune fille aujourd'hui qui a fini ses études, qui a une licence, mais je te dis, il ne sait plus lire. Je parle de ce que je connais. C'est un cas que je suis en train de suivre à l'église actuellement.
Et vous avez diagnostiqué que c'était pendant les vacances que
je dis, ces vacances s'est passé, mais je dis, c'est un impact de la sorcellerie. Donc, nous devons protéger nos enfants parce qu'à tout moment, ils sont vulnérables. Si nous, les parents, où on ne protège pas nos enfants pendant les vacances, c'est grave. On va se retrouver l'année qui suit avec des enfants totalement doux, qui ne comprennent plus rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut une certaine discipline. Comment vraiment organiser les vacances de l'enfant? Parce qu'il faut aussi que tu saches organiser les vacances. Que ce soit ceux qui sont grands, que ce soit ceux qui sont tout petits, il faut savoir organiser leurs vacances. Si on laisse les enfants faire du n'importe quoi pendant les vacances, on risque de les perdre. D'autres parfois ne finissent pas les vacances, c'est des cas de décès, c'est des accidents, c'est tout ce qui peut arriver. Parce que l'enfant, il dit, je suis les vacances, j'ai besoin d'un esprit comprimé, il faut que je me relâche, il faut que je fasse ceci. Et ça devient le libertinage et on se trouve à subir des conséquences désastreuses. On perd les enfants qui vont aller commencer à se livrer à des drogues, à la consommation des stupéfiants, parce qu'on ne les a pas contrôlés, on n'a pas discipliné, on n'a pas organisé leurs vacances. Il faut organiser les vacances de l'enfant, que chaque parent organise les vacances de son enfant. Oui, l'enfant va aller au village. Il faut savoir, est-ce que le village est vraiment bénéfique pour l'enfant? Est-ce qu'en allant au village, l'enfant vraiment sera en sécurité? Parce que parfois, on arrive au village, au contraire, on vit plutôt un traumatisme qui nous amène autre chose dans l'escorée qui suit.
On ne va pas non plus dire que le village est mauvais, parce que le village... Oui, je veux juste qu'on nuance.
Oui, c'est ça que je dis, qu'il faut se rassurer. C'est bien aller au village, se détendre, aller en brousse, découvrir les champs, découvrir toutes ces choses, le paysage, tout ça c'est bien. Il faut aller au village, mais il faut organiser. Mais se rassurer. Mais il ne faut pas qu'on se trompe. Nous sommes aujourd'hui nous vivons une société très très désastreuse et dangereuse, où la méchanceté a atteint un autre niveau. Il ne faut pas qu'on se voile les yeux. On continue à dire, le mal même parfois ne vient pas de loin, il vient de nos maisons. Donc, il n'y a plus cette histoire de confiance là. Ma soeur, mon frère, ma tante et tout ça. Ça, et je dois savoir qui tu es avant d'envoyer mes enfants. J'organise les vacances.
Alors, Monsieur Lingom, vous avez parlé justement d'une discipline qui doit être continue, que ce soit pendant la période scolaire, que ce soit pendant les vacances. Et je voudrais donc savoir, nous voudrions donc savoir comment organiser donc de manière concrète les vacances des enfants.
Je commencerai par dire, Estelle, que il faut que les parents réalisent que il règne à la maison un ensemble de principes que nous développons et que nous sommes en train d'essayer d'inculquer à nos enfants, un ensemble de valeurs que nous essayons d'inculquer progressivement à nos enfants, mais aussi, surtout, un ensemble de croyances que nous essayons d'inculquer à nos enfants quand ils sont sous notre toit pendant l'année. Alors, quand on disait tout à l'heure que soit on dirige les circonstances, soit on subit les circonstances, il se trouve que dans les cas où on subit les circonstances, on peut être influencé par la famille. La maman te demande simplement de lui envoyer ses petits-enfants. C'est un ordre qui t'est intimé. Estelle, tu n'as pas besoin de raisonner. Et si tu essaies de raisonner, tu vas recevoir les foudres de ta maman ou de ta grand-mère. Bon. Et puis toi aussi, tu peux seulement envoyer les enfants. Ça peut être que dans la famille, on a l'habitude de rassembler tous les enfants pendant 2 semaines parce que c'est la famille telle, c'est comme ça. Bon, donc on peut subir les circonstances et on laisse l'enfant aller. Mais quand on met l'accent sur le fait que sous notre toit, nous sommes en train d'inculquer à notre enfant, Deutéronome chapitre 6, les versets 5 et 6, la parole de Dieu sera dans ton cœur. Les commandements de Dieu seront dans ton cœur et tu les inculqueras à ton enfant. Tu en parleras dans ta maison. Alors, tu es donc en train de faire ce travail dans ta maison. Il faut prendre conscience du fait que dès lors que l'enfant change de maison sous une autre toiture, les principes généralement ne sont plus les mêmes. Les valeurs ne sont plus les mêmes, c'est-à-dire les interdits et les permis ne sont plus les mêmes, les croyances ne sont plus les mêmes, ne parlons pas du cas où ça peut être contraire. Ça, c'est là où le parent a besoin de diriger les circonstances. Ce qui fait que nous ne sommes pas là pour dire qu'il ne faut pas envoyer au village. Mais moi, je ne veux pas non plus dire qu'il faut envoyer au village. Mais on va responsabiliser le parent pour qu'il ait assez de clairvoyance et qu'il puisse bien analyser quels sont les principes en fonction, les principes, les valeurs, les croyances en fonctionnement dans sa maison, de telle sorte que puisqu'il doit continuer d'assurer la formation de l'enfant, que l'enfant puisse rejoindre un autre foyer dans lequel il y a des valeurs proches ou identiques, des principes et des croyances proches ou identiques. C'est là le défi, c'est là la responsabilité du parent et il faut donc protéger l'enfant d'une rupture brusque. Il passe d'un toit à un autre, mais il va se retrouver face à des principes parfois différents, des valeurs, des croyances différentes. Et ça déséquilibre beaucoup de choses. C'est-à-dire, sur le plan moral, sur le plan psychologique et même psychique, l'enfant peut se retrouver totalement en conflit avec lui-même. Quand Potri disait tout à l'heure que tu as un enfant qui est parti et tu as un autre qui est revenu. Parce que les principes qu'il a pu intégrer jusque-là, avec lesquels il a essayé de fonctionner, et puis les principes maintenant qui lui ont été inculqués parfois, sans lui laisser l'occasion de réfléchir ou pour les intégrer ou pas, ça c'est parfois forcé. Ici c'est comme ça, pas ceci, pas question de cela. Ici, un enfant peut partir et un autre revient. Et dans l'accompagnement du travail que nous faisons chaque jour, c'est pénible d'écouter un parent qui dit « C'est lorsque j'avais envoyé mon enfant, je ne diabolise personne, mais c'est lorsque j'avais envoyé mon enfant chez tel. C'est parfois chez mon frère, chez ma soeur, chez ma mère, chez mon père, et tout, et tout, et tout, et tout. Ou bien au village. C'est pas pour diaboliser. Mais nous avons la réalité de plus d'un parent qui le disent et qui ne le disent pas seulement de bouche. L'enfant est en train de subir maintenant une transformation et une nouvelle orientation non maîtrisable, compliquée, qu'on aurait pu simplement prévenir. D'où protéger les enfants. Et c'est la responsabilité du parent de réfléchir, d'orienter les choses, mais d'assumer aussi. Mais par exemple, lorsqu'un enfant, comme dans les cas que nous avons sous la main, un enfant est allé en congé quelque part, et il jouait sur le champ de la voisine, de la grand-mère. Et pendant que l'enfant jouait là-bas, un petit truc est entré dans son œil. Et en voulant frotter l'œil, l'œil s'est fermé. On a amené à l'hôpital, on ne comprend rien. Mais quand un enfant perd tout un œil pendant les vacances, les choses sont surtout spirituelles. Tout est spirituel. Ça veut dire que le parent a la responsabilité, je dirais même l'obligation, d'analyser, donc de se projeter pour analyser dans quel milieu il va envoyer l'enfant ou ne pas envoyer, mais surtout de s'assurer que les valeurs, les principes, les croyances qu'il essaye d'inculquer continueront d'être inculquées à l'enfant dans cette période de vacances. C'est pourquoi nous avons parlé tout à l'heure de discipline. C'est une discipline de continuité. Autant il y a une discipline pendant la période des classes, autant il faut une discipline qui continue. Mais il y a là le défi de protéger. Protéger par rapport à la dimension spirituelle, le diable rôde. La Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. Il faut protéger spirituellement, mais il faut aussi que la dimension mentale ne connaisse pas un relâchement total. Mais quel est le minimum qu'on peut entretenir pendant les vacances? Il faut protéger du relâchement intellectuelle totale qui peut être fatale l'année suivante. Il faut maintenant vérifier la dimension émotionnelle. Il faut protéger les enfants de la dimension émotionnelle. C'est pendant les vacances que les enfants se donnent à jouer à papa et maman, et beaucoup de choses arrivent que nous connaissons. Donc il y a la dimension émotionnelle, mais il y a aussi la dimension sociale maintenant. Il y a aussi le fait pour l'enfant d'aller au-delà du cercle réduit de la maison. Parce que l'éducation, la formation d'un enfant défie l'homme à se socialiser, autant le parent que l'enfant. Moi-même qui suis parent, j'ai la responsabilité de connecter mon enfant à d'autres adultes et puis à d'autres jeunes auxquels il n'est pas habitué. Donc il faut socialiser l'enfant, cette dimension sociale, à l'occasion, l'opportunité d'être mieux développé pendant les vacances encore. Il faut garantir cela, bien entendu, sous contrôle, avec la responsabilité du parent.
Alors, apôtre Essouma Tangana, est-ce que vous pouvez donner des exemples d'activités que les enfants pourraient mener pendant les vacances et qui seraient bénéfiques pour eux, bien sûr, sous le contrôle, la surveillance des parents qui ont peut-être pris déjà certaines dispositions avant?
Ok, avant d'aller sur ce sujet, je voudrais revenir sur ce sujet que nous parlons de la protection des enfants. Vous savez, c'est pendant les vacances que nos enfants subissent beaucoup de mauvaises choses. Parce que, vous voyez, tu vas voir ton enfant en vacances chez quelqu'un, parfois c'est le beau-frère, soit qui va commencer à déranger ta fille, ta petite fille même pas de 12 ans ou de je sais quel âge, ils vont subir des viols. Ils vont subir beaucoup
des attouchements.
Ils vont commencer à expérimenter des choses que toi, tu ne donnes pas à tes enfants à la maison. L'éducation sera vraiment différente. C'est pour ça que mieux manque pour moi le village, vraiment, que d'envoyer l'enfant en ville, dans une autre famille, qu'on parle d'éducation, que chacun donne à ses enfants. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que l'enfant... Il faut proposer à l'enfant pendant les vacances. Il faut poser à les enfants des activités qui vont permettre de garder son intellect en place. Parce qu'un muscle qui ne travaille pas, il fait comment, il s'atrophie. Mm-hmm. Donc il faut que l'enfant continue dans des activités qui vont garder sa mémoire intacte, son intellect intact. Il y a beaucoup de programmes. Moi, je disais, j'ai béni à l'État. Il a mis un programme de stage de vacances qui je trouve partout dans les directions, dans les ministères, les salles de vacances qu'on met à la portée des enfants. Je pense que c'est qu'à la CATV, il y a les salles des vacanciers qui vont venir faire les salles de vacances ici. Un enfant qui a fait un salle de vacances à la CATV, franchement, quand il retourne à l'école, il est plus ouvert, il sera plus apte par rapport à celui qui n'a pas fait ses stages. Il se sent un peu responsable, il est un peu libre dans ses mouvements, mais il est canalisé sur quelque chose. C'est ça qui est important. Elle est canalisée sur une activité qu'il occupe pendant les vacances. Il est ici à la radio. Pour lui, c'est important. Il va venir parler devant le micro. Il sera épanoui. Il sera joyeux. Waouh, j'ai parlé devant le micro. J'ai parlé à la télé. J'ai parlé à la radio. Donc, je pense que ça, c'est déjà quelque chose vraiment à saluer que l'État a mis en place. Et c'est seulement que parfois, les enfants ne sont pas au courant qu'il y a ce genre de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant. Qu'ils sont pas au courant qu'il y a des salles de vacances pareilles. Ça passe de bouche à oreille. Il faut qu'on rende ça officiel. Il faut qu'on annonce qu'on cherche des enfants pour le salle de vacances, peut-être dans une banque, peut-être dans un ministère, et à la télévision, à la radio. Qu'on annonce que les enfants soient au courant. Qu'on envoie des programmes de salles de vacances. Qu'on envoie ça dans les établissements. Comme ça, l'enfant sait qu'il y a une salle de vacances proposée à la CATV. Et je vais postuler, il va faire sa demande, il va postuler. Il est retenu, c'est bien pour lui. Ça, c'est dans le cadre social. Maintenant, dans le cadre spirituel, nous, comment on fait? Il faut que les églises organisent des activités. Des activités ecclésiastiques qui vont amener l'enfant à entrer dans son monde de retraite spirituelle. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça, il charge les batteries. Quand il est bien chargé, il pourra affronter l'année scolaire sans problème, que la batterie se décharge à nouveau pour recharger pendant les prochaines vacances. On organise des camps de jeunes. À l'église, des camps de jeunes, moi par exemple, chaque année, j'ai un camp de jeunes que les enfants suivent, un camp de jeunes de 10 jours. où ils se détachent un peu de tout leur quotidien, de la télévision, de leur cahier. On va dans un site et dans ce site-là, on a un programme uniquement spirituel. Prière, enseignement.
Il n'y a pas de jeu?
Non, il y a les jeux. Il y a les jeux, il y a les soirées culturelles, il y a les jeux, il y a le foot. Il y a beaucoup de détente. Il y a des ateliers éducatifs, des ateliers. Il y a beaucoup de... C'est un programme, c'est 10 jours. Donc, c'est un programme bien étoffé, bien ficelé pour que l'enfant, au sortir de là, il est rempli spirituellement. Il est galvanisé. Il est déterminé à avancer dans la foi. Cette année, le camp de jeunes commence le 2 et finit le 12, le 2 août.
2 août, ok.
Le 2 août et finit le 12 août. Donc, c'est 10 jours. C'est là où tu découvres les aveux. Les enfants font des aveux qu'ils parfois, vous les parents, qui vous ne connaissez même pas. Mm-hmm. Il y a des choses que les enfants ont confessées pendant ces programmes que le parent était surpris. Que l'enfant à la maternelle avait été violé jusqu'à présent, le parent ne savait pas. C'est vrai que les vacances sont souvent aussi, c'est les moyens. Parfois, c'est les moyens parce que les parents se retrouvent à bout de moyens, ils ne peuvent pas assumer. Déjà, pendant toute l'année scolaire, il fallait donner l'argent de beignets, l'argent de taxi. Pendant les vacances encore, il faut donner. Donc, il faut que le parent soit encouragé, soit motivé à continuer.
C'est juste,
oui, à se sacrifier. C'est jusqu'à ce que l'enfant devienne responsable de lui-même. Qu'il puisse prendre soin lui-même que tu t'acquittes de ses responsabilités. Mais jusqu'à ce que l'enfant est encore sous ta charge, parents, nous devons tout faire pour accompagner nos enfants, même pendant les vacances, même pendant l'année scolaire, avec ses activités. On peut aussi les faire visiter, pour faire un peu de tourisme, se balader, voir, je ne sais pas, des sites touristiques, découvrir, se déplacer, des voyages, voilà.
Évangéliste Lingom, à côté des camps de formation que l'apôtre évoquait, j'imagine que vous également, vous organisez certainement des camps de formation pour les jeunes. Est-ce que les activités comme... je vois, nous observons de plus en plus aussi des mois où on demande aux enfants, on encourage les enfants à venir apprendre, par exemple, la langue maternelle, à apprendre la peinture, le dessin, ainsi de suite, qui n'ont pas forcément une connotation spirituelle, où on ne parle pas forcément de Dieu. Quel est votre avis sur ces autres activités?
Oui, justement, Estelle... C'est vraiment là où nous avons parlé tout à l'heure du fait de diriger les circonstances. Lorsqu'on dirige les circonstances, on est beaucoup plus conscient de donner à son enfant un développement équilibré. Et l'équilibre de son développement, de sa formation, doit toucher tous les aspects. Et justement, nous sommes en train d'évoluer dans une société... dangereuse, de plus en plus dangereuse. C'est-à-dire que il faut aller à l'école, il faut trouver un travail, il faut avoir de l'argent et pouvoir tout payer, même les moindres choses qu'on devrait pouvoir faire par soi-même. Exemple, lorsque nous sommes chez nous et qu'un robinet coule, c'est-à-dire perd de l'eau, nous appelons le plombier. Lorsque la réglette ne donne plus, nous appelons l'électricien. Lorsque la serrure ne tourne plus bien, la clé, nous appelons le menuisier. Nous appelons. Et nous sommes en train de nous habituer à une société où ça devient comme normal de ne plus pouvoir rien faire par ses propres mains. Dans Jean chapitre 21, Jésus a pu braiser le poisson, il a pu cuire le pain et il a pu servir les disciples de ses propres mains. Jésus a lavé les pieds des disciples de ses propres mains, ce qui veut dire que nous devons apprendre à nos enfants à travailler de leurs propres mains au-delà de ce que nous pouvons payer une ménagère ou un autre agent qui travaille à la maison. Il faut qu'on apprenne. Et les vacances sont le moyen de mettre les enfants dans une éducation vraiment complète. Lorsque pendant l'année, ils n'ont pas assez de temps qu'il faut pour faire autre chose, pendant les vacances, nous devons diriger les circonstances, nous devons bien organiser le travail. À l'Institut Tyrannus, qui est un centre de formation chrétien et citoyen, on organise ça d'une manière beaucoup plus sérieuse que cela. Nous avons le programme que nous appelons Valved. Vacances loisirs, vacances éducatives. Et dans ce programme, vous allez trouver tout, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, Estelle, que l'enfant va apprendre la musique, il va apprendre l'électricité, il va apprendre l'informatique, il va apprendre le coloriage, il va apprendre la cuisine, il va apprendre vraiment une multitude de choses parce que il a besoin de s'équiper maintenant, d'être équilibré dans ces choses. Il a besoin d'apprendre cela, même la couture et ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut vraiment organiser les choses. Et les parents ici sont responsables de cela. Ce qui fait que il y a des structures comme le centre de formation Institut Tyrannus, comme l'église et puis d'autres associations qui organisent des choses, même l'État pendant les vacances. Mais le parent est responsable d'organiser lui-même, on parle de diriger les circonstances, d'organiser un certain nombre de choses. Parce que chaque enfant étant unique, et le parent devant avoir pour son enfant toute une grande vision pour son présent et pour son avenir, les autres ne vont pas toujours organiser les choses vraiment appropriées pour l'enfant. Il faut que le parent en prenne conscience. Ce qui fait que le parent va étudier, par exemple, le programme de l'église. Pourquoi j'envoie l'enfant là-bas? Voici ce qu'il peut obtenir là-bas. Et pourquoi le programme de l'Institut Tyrannus, Valverde, par exemple, voici ce qu'il peut obtenir là-bas. Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas non plus obtenir de là? Que je suis tenu d'organiser par moi-même et de trouver un cadre, un contexte dans lequel mon enfant pourra acquérir tel talent, telle compétence, on parlait des skills, des habiletés. Donc, je suis responsable d'équiper mon enfant multidimensionnellement. Et c'est à moi donc maintenant de diriger les circonstances, d'organiser les vacances, de le protéger de la lassitude et du désordre et de l'indiscipline, mais de l'orienter, de bien l'orienter de sorte que les vacances puissent continuer d'être un moment de détente, de loisir, mais aussi de continuité de la formation. C'est pourquoi on a mis sur pied ce programme vacances loisirs, vacances éducatives. Et dans ce cas-là maintenant, c'est ça qui va accomplir ce que l'apôtre disait tout à l'heure, que c'est un moment de véritable recharge. L'enfant va se remplir sur d'autres plans encore, et quand il revient pour mieux se concentrer plus sur le côté instruction, il va être très efficace parce qu'il est vraiment bien équipé. Il faut s'assurer qu'on atteint des objectifs précis et on organise les activités en conséquence. Il y a des objectifs qu'on pourra atteindre à travers un programme par-ci, par-là, organisé par d'autres, mais il y a des choses qu'on ne peut réaliser dans la vie de l'enfant qu'en organisant soi-même un cadre qui convient.
C'est vrai qu'on a parlé de sacrifices que les parents doivent consentir pour les enfants, parce que on parle d'activités, mais ce sont aussi des activités qui demandent également un sacrifice financier. Alors ma question est de savoir, pour des familles qui n'ont pas suffisamment de moyens et qui doivent envoyer les enfants dans des familles, des frères, des sœurs, où ils n'ont pas les mêmes croyances. Comment gérer cette situation? Que j'ai ma sœur qui tient, avec qui j'ai des bons rapports, vraiment des bons rapports, mais on n'a pas forcément des mêmes croyances, ou alors une maman qui aime forcément ses petits-enfants, mais nous n'avons pas les mêmes croyances et qui tient à ce que les enfants viennent chez elle. Elle n'est pas forcément au village, elle peut même être au village, mais qui veut avoir également les enfants près d'elle. Comment gérer ce genre de situation?
Oui, Estelle, ça dit que je souris un peu avec l'apôtre pour dire qu'il faut éviter d'être dans ce qu'on appelait, étant jeune, l'amitié des beignets. L'amitié des beignets, c'est quoi? C'est-à-dire que quand j'ai mon beignet, je te partage mon beignet, nous sommes amis. Si j'ai mon beignet, je te refuse mon beignet, je ne suis plus ton ami. Tu me dis, tu n'es plus mon ami à compter de ce jour. C'est pour rigoler. Mais quand nous revenons aux enfants, l'enfant n'est justement pas un beignet. L'enfant, c'est ce que nous avons de plus précieux. Et il est tellement précieux que, de nos jours, je veux dire, le diable et les systèmes du monde amène les enfants, les parents, pardon, à ne pas réaliser que c'est ce qu'on a de plus précieux. Et à donner des arguments qui rendent le parent, j'ose dire, irresponsable. Je vais donner un cas pratique. Nous sommes dans un groupe des hommes. Et au niveau de ce groupe des hommes, on se met à discuter des hommes chrétiens. Mais qu'est-ce que nous avons même de plus précieux dans nos vies? Chacun dit, mais c'est ta femme, c'est tes enfants. Et puis un autre de demander, ben, avec qui nous passons plus de temps, la majeure partie de notre temps. Vous pouvez imaginer la réponse. C'est pas avec notre femme, c'est pas avec nos enfants. Même si on est serviteur de Dieu, on est au travail, on est hors de la maison, et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dit, tu ne peux pas être autant convaincu que ta femme et tes enfants, c'est les personnes les plus précieuses de ta vie, mais tu passes plus de temps ailleurs qu'avec eux. Alors, si nous ramenons ça à notre sujet d'aujourd'hui, Esther, les enfants, c'est précieux, et parce que c'est précieux, ça ne doit pas être une amitié de beignet. Ce qui veut dire même que lorsque tu es mon ami, même que tu es mon frère ou ma sœur, la Bible tranche. Les frères de Jésus, la mère de Jésus sont arrivés parce qu'ils n'avaient pas vu Jésus depuis longtemps et ont fait dire à Jésus que ta mère et tes frères sont dehors, ils veulent te voir. Nous savons que Jésus n'est même pas sorti. Et il a dit, ma mère et mes frères sont ceux qui sont ici, qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand tu es mon frère, même quand tu es ma soeur, ma mère, la place des croyances est capitale. La place des valeurs, la place des principes de vie est capitale. Ce qui veut dire qu'en principe, on ne devrait se dire ami, frère, que lorsque nos valeurs nous rapprochent. C'est là où beaucoup de choses prennent la dimension émotionnelle. C'est-à-dire qu'on peut en même temps dire c'est mon ami, mais nous n'avons pas les mêmes croyances. C'est mon ami, c'est ma sœur, mais nous avons même des croyances contraires. Parce que dans une famille aujourd'hui, on trouve quelqu'un qui est mormon, on trouve l'autre qui croit au bouddhisme, l'autre qui est au shintoïsme, l'autre qui croit à Allah, et l'autre qui lit la Bible. Bon, finalement, nous ne pouvons pas continuer de nous leurrer. C'est-à-dire que nous avons choisi des divinités qui sont vraiment différentes et nous avons des croyances qui s'opposent même. Parce que, par exemple, il y a telle église où lorsque quelqu'un doit manger dans une marmite ou dans un plat, il y a des rites qu'il faut d'abord faire à cause des croyances. Et maintenant, tu vas dire que vous êtes amis comment? C'est pourquoi on dit qu'il faut que nous comprenions que l'enfant, c'est ce que nous avons de plus précieux, au-delà de l'émotion qui peut nous attacher à notre frère, à notre sœur. Nous avons besoin d'analyser et de prendre au sérieux les croyances. Ce qui fait que on dirige les circonstances. Je peux te refuser mon beignet, tu te fâches, je gère. Mais l'enfant, je vous ai dit tout à l'heure, un enfant qui a perdu un œil par un petit jeu là, c'est toute sa vie, hein.
Mais comment dire à votre maman, comment dire à grand-mère que je ne peux pas envoyer l'enfant? Comment est-ce qu'elle va comprendre ça?
Ok, je vais prendre un exemple très clair. Le jour de la consécration de Aaron et ses fils comme sacrificateurs, à peine ils étaient encore dans le service, dans le sacerdoce, présentant leur premier sacrifice que Moïse a ordonné, présenter le sacrifice pour vous-même, présenter le sacrifice pour le peuple, il s'est passé quelque chose, c'est que Dieu lui a allumé son feu sur son autel. Mais il s'avérait que les enfants de Aaron, deux de ses enfants, ont pris un feu ailleurs. Ils ont amené sur l'autel. Et le feu sorti de l'autel a consumé ces deux enfants d'Aaron. Parce qu'ils ont amené quoi? Un feu étranger. Et Dieu a interdit de venir avec un feu étranger dans sa présence. Ce que je dis, tu vas prendre Dieu le cruel, mais Dieu n'est pas cruel. Et moi, je dis aux chrétiens, soyez des chrétiens de principe. Si Dieu est un Dieu de principe, soyez aussi des chrétiens de principe. Le sentiment ne va pas avec Dieu. Dieu n'est pas dans les sentiments. Les gens se pensent que non, Dieu, tu vas prendre Dieu dans les émotions, dans les sentiments. Non, Dieu a des principes. S'il dit, place-toi ici, tu ne te places pas. Assume les conséquences. Ne pleure pas pensant qu'en pleurant, ça va changer. Sauf si tu reviens par la repentance. Et Dieu va plus loin. Il dit à Aaron de ne pas pleurer. Il dit à Aaron et ses deux frères qui sont restés de ne même pas l'assister aux obsèques de ses deux fils. Aaron ne pleure pas, ne pas assister, là on va aller enterrer tes enfants. Donc Aaron et ses frères ne doivent pas pleurer, et ils doivent rester dans sa présence. Alors, c'est difficile pour un père. Mais à cause des principes, à cause de Dieu, ce père est resté dans la présence de Dieu. Parce que Dieu aussi, il craint que si je désobéis, je vais aussi mourir. Donc, en réalité, il ne faudrait pas vendre nos enfants parce qu'on est, on est motif. Parce qu'on a des liens familiaux. Si tu sais que en envoyant tes enfants chez ta maman, tes enfants ne seront pas en sécurité, ne les envoie pas. Parce qu'après, il n'est pas dit que Dieu, j'ai envoyé mes enfants, Dieu, vraiment, voilà, c'est ma mère. Ça ne sortira pas. Si tu sais que ta maman n'est vraiment pas digne de confiance pour que tu envoies tes enfants, que tes enfants reviennent en sécurité, ne les envoie pas. Si tu sais qu'en envoie tes enfants, maman va mettre les enfants chez les marabouts, contrairement à ce que toi tu vis à ta foi, ne les envoie pas. Mieux encore avoir des problèmes avec maman et de protéger mes enfants. Ça va mener une confusion et ça va tuer finalement tes enfants. Même pas physiquement, mais spirituellement, ils seront morts. Parce que tu as permis qu'un feu étranger pénètre dans la vie de ses enfants. Mais s'ils sont dignes de foi, ok, c'est bon. Notre société est devenue tellement... Les gens ne se cachent plus. Hein. C'est-à-dire quelqu'un est sataniste, te brandit sa foi.
Monsieur Lingom, vous avez un dernier mot. Nous sommes quasiment à la fin de notre émission. Nous avons parlé de protéger les enfants. Nous avons évoqué un certain nombre d'activités et les dangers qu'ils courent. Nous avons parlé des disciplines, des parents qu'ils ne doivent pas subir. Un dernier mot avant qu'on ne conclue.
Oui, je vais penser à Jésus qui était sur la croix et qui a dit à Jean, « Fils, voilà ta mère », parlant de sa mère Marie. Et qui a dit à Marie, « Femme, voilà ton fils », parlant de Jean. Ça veut dire que Dieu est un être social et nous sommes aussi des êtres sociaux. Les vacances sont un grand moment d'étendre sa dimension sociale. Même si nous avons mis l'accent sur un certain nombre de choses, il faut contrôler, il faut protéger, mais il ne faut pas manquer de se socialiser, il ne faut pas manquer de continuer de se discipliner, il faut réussir à se recharger multidimensionnellement et que les vacances soient plutôt un succès.
Apôtre Josué Essouma, dernier mot.
Ok, dans ce que je peux donner aux parents, l'évangile dit quelque chose de très pertinent ici. On est absent et c'est très dangereux. Et on dit qu'ils sont précieux. Et vous voyez, cette absence-là, aujourd'hui, crée beaucoup de dégâts dans la vie de nos enfants. Tu es au travail, tu rentres tard. Les enfants vont à l'école, ils rentrent parfois, tu n'as même pas le temps de regarder le cahier. Maintenant, pendant les vacances encore, tu les éloignes encore de toi. C'est-à-dire, ils n'auront pas d'affection. Il faut que nous, parents, nous apprenons aussi à être présents dans la vie de nos enfants. C'est-à-dire que pendant les vacances, prendre, peut-être faire une sortie, aller se balader avec eux, les témoigner cette affection peut-être qu'ils ont manqué pendant toute l'année scolaire. Parce que ce qu'il a dit est très pertinent. Et c'est ça qui est le nœud de beaucoup de problèmes aujourd'hui dans la vie de nos enfants. On est absent. Parce qu'un enfant qui n'a pas d'affection peut facilement t'insulter. Les enfants disent, tu vois, un enfant qui chute sa mère, qui chute son père, il s'en fout. C'est parce que cet enfant a manqué, il y a quelque chose qui a manqué. Et c'est ce point qu'il a dit, le parent absent. Donc, mon conseil, c'est que les parents, en vacances, prennent aussi un peu de temps avec tes enfants. Organise bien les vacances de manière que tu aies eu un temps avec tes enfants pour partager avec eux, pour témoigner cet amour, cette affection dont ils ont besoin. Et puis maintenant aussi, les envoyer dans... il faut vraiment discipliner, bien organiser, comme il a dit, social, spirituel, affectionnel. Et on aura des bons produits à la fin, de très bons produits.
Voilà, la discipline, le discernement, l'organisation des vacances de nos enfants, voilà quelques astuces pour protéger de manière efficace, optimale, les enfants pendant les vacances. Madame, messieurs, c'était question de foi. Nous avons bénéficié de la collaboration technique de René Nang. Nous disons merci également à nos invités, l'apôtre Josué Essouma Atangana. Merci d'être passé par la CRTV.
Merci Estelle. Merci à cette opportunité que la CIATI me donne. Merci à tous les auditeurs qui nous ont